France Culture.
Un nouvel âge d'or économique, c'est ce qu'a promis hier Scott Bessent, candidat au poste de secrétaire au Trésor, durant son audition devant le Sénat américain. Au programme, la lutte contre l'adversaire le plus puissant et le plus dangereux pour les États-Unis, c'est-à-dire la Chine. Pour ce faire, chaque politique diplomatique et chaque dollar dépensé par les États-Unis devra rendre l'Amérique plus sûre, plus forte et plus prospère. Et je le cite bien évidemment là, avant même l'investiture de Donald Trump lundi prochain, les mesures qui vise à restreindre l'importation de produits chinois sur le sol américain s'accumulent. Si les barrières tarifaires sont un outil bien connu, il en existe un autre particulièrement puissant, le dollar, justement. Cette monnaie qui constitue 58% des réserves mondiales de devises, selon le Fonds monétaire international, est à la fois un instrument de la puissance économique américaine, mais aussi représente une forme de vulnérabilité, car en matière de monnaie, tout est question d'équilibre. Or, le dollar ne cesse de se renforcer, ce qui n'est pas toujours un avantage pour une économie qui entend occuper le devant des échanges commerciaux. Alors la guerre commerciale de Trump est-elle aussi celle d'échanges? Quelles conséquences de l'emploi d'une telle arme pour les économies qui ne sont pas nécessairement américaines mais qui sont fortement dollarisées? Le légendaire billet vert sera donc au cœur de la table ronde d'actualité d'Entendez-vous l'écho jusqu'à 15h. Dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Marie-Claire Oumabati. Et trois invités sont autour de cette fameuse table ronde d'actualité. Antoine Berthoux, Benjamin Burbaumer et Jean-François Ponceau. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Bonjour. Ponceau, vous êtes professeur des universités à l'université Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire PACT de sciences sociales et vous êtes avec nous à distance aujourd'hui. Benjamin Burbaumer, vous êtes maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux et auteur d'un ouvrage paru à la découverte, c'était en avril 2024, intitulé « Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation ». Et Antoine Berthoux, enfin, vous êtes économiste à la Banque de France et vous êtes notamment, entre autres, on peut le dire, spécialiste des questions d'économie internationale, ce qui va nous être bien utile aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour commencer, Antoine Berthoux, il faut avant tout chose faire un point qui s'impose. De quoi parle-t-on lorsque l'on dit que le dollar est fort? Qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie?
Alors, le dollar, le taux de change du dollar, un taux de change général, c'est un prix relatif entre deux monnaies. Effectivement, c'est associé à la fois à la performance d'une économie et aussi à son pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, si l'on prend le taux de change de l'euro par rapport au dollar, on est à un euro vaut 1,02 dollars, aujourd'hui 1,03 dollars, donc on se rapproche de la parité. Et cette fluctuation de l'euro-dollar, eh bien, elle était assez forte depuis l'introduction de l'euro en 1999. Donc à l'introduction, l'euro était passé sous la parité de l'euro-dollar et puis pendant une longue période couvrant les années autour de la crise financière et jusque très récemment, on a eu l'habitude d'avoir des parités autour de 1,2, 1,3 dollars pour un euro. Donc là, on revient vers une parité. Et cette parité, elle est expliquée par plusieurs facteurs. Mais d'abord, un très bon dynamisme de l'économie américaine.
On va voir effectivement, Antoine Berthoux, comment finalement la santé économique des États-Unis est mesurée aussi par ce fameux taux de change du dollar. Vous l'avez dit, il s'agit d'un prix relatif entre deux monnaies. Le dollar n'est pas fort dans l'absolu, il est forcément comparé à une autre monnaie. Or, en 2024, c'est un fait, on observe une appréciation du dollar de l'ordre de 7% par rapport à l'euro, vous l'avez dit, mais aussi par rapport au yen, au yuan, au franc suisse et à la livre sterling. De l'ordre de 7%, c'est tout à fait négligeable, pour le dire ainsi. Vous l'avez dit également, Antoine Berthoux, on atteint pratiquement une forme de parité entre l'euro et le dollar. C'est un seuil symbolique. Pourquoi est-ce si symbolique qu'un dollar vaille quasiment, alors à quelques virgules près évidemment, quasiment un euro?
Alors c'est symbolique pour des raisons un petit peu historiques, justement au travers de la parité qui existait ou la relative parité qui existait au moment de l'introduction de l'euro en 99, mais aussi ce taux de change euro-dollar, il impacte, et donc le taux de change du dollar en général, il impacte l'économie mondiale de beaucoup de manières. Pour les États-Unis, il s'agit d'un indicateur aussi du pouvoir de l'achat, des consommateurs et des entreprises américaines. Hein, donc un dollar apprécié, un dollar plus élevé, c'est un coût d'importation de marchandises ou de services importés qui est plus faible et donc en relatif pour des économies européennes qui importent eh bien une partie importante de leurs biens, marchandises, services facturés en dollars et en particulier notamment au secteur de l'énergie ou des commodities, eh bien un dollar fort, ça signifie eh bien des coûts de production plus importants pour les entreprises, un pouvoir d'achat dégradé aussi pour les ménages et ce qui fait la spécificité du dollar, et vous en avez parlé donc en introduction, c'est le fait que le dollar, au-delà de son rôle, le statut de réserve internationale et de l'importance dans ses réserves, est aussi une monnaie importante de facturation. On reviendra là-dessus.
Alors ça, c'est extrêmement important et effectivement, ça va, on va dire, tendre toutes les missions et qu'il faut bien garder ça en tête. C'est un peu ces deux fonctions, finalement, de la monnaie, à la fois une façon d'échanger, et notamment en termes de commerce international, c'est très important, mais aussi son rôle, sa place dans les réserves de change de multiples pays. On le disait, 58% de ces réserves, selon le FMI, sont en dollars. Et c'est deux fonctions qui sont peut-être pas à confondre parce qu'elles renvoient à deux réalités un peu différentes et à deux effets, on va dire, aussi très différents de cette évolution du taux de change. On va largement revenir dessus. Jean-François Ponceau, de quoi un dollar qui s'apprécie, un dollar qui se renforce, qui devient fort, est-il le signe? Est-ce qu'il faut y voir nécessairement l'évaluation, on va dire, d'une bonne santé économique des États-Unis?
Oui, c'est ce qu'on peut penser, c'est ce qu'on dit habituellement. Néanmoins, j'aimerais dire que la force du dollar, c'est pas uniquement au regard du taux de change, c'est-à-dire du prix relatif. On peut très bien avoir, et on a eu ça dans l'histoire, un dollar qui est faible au niveau du taux de change, c'est-à-dire par rapport à d'autres devises, mais qui est très fort et très puissant à l'échelle internationale. Alors, c'est vrai que si le dollar s'apprécie, c'est qu'a priori, les capitaux sont attirés par les États-Unis. Pour différentes raisons, ce qui fait l'attractivité des États-Unis, ça peut être justement un différentiel de croissance qui est plus favorable, ça peut être le fait, à mon avis c'est un peu ça qui se passe avec Trump, le fait qu'il y ait une réaffirmation de la puissance américaine, ça attire les capitaux étrangers. C'est lié évidemment à des logiques purement financières, de taux d'intérêt, de rendement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on veut analyser la force du dollar, on doit aller au-delà de simplement la dimension taux de change, il me semble.
Ce qui est très intéressant, vous l'avez dit là, Jean-François Ponceau, c'est que il y a tout de même cette capacité à attirer des capitaux. Certes, il y a aussi le discours de Donald Trump qui a émergé puis qui s'est, on va dire, qui a été validé par les urnes lors de son élection. Or, Benjamin Birbaumer, on pourrait se dire que voilà qui n'est pas tout à fait logique quelque part. Pourquoi a-t-on autant confiance? Pourquoi a-t-on autant de demandes finalement pour ce fameux dollar alors même que ces promesses là, notamment de bataille commerciale à mener, pourraient échauder certains acteurs économiques. On pourrait se dire ça nous prépare un avenir relativement incertain. Et pourtant, le dollar reste fort. Il y a là une forme de paradoxe, non?
On pourrait dire qu'il y a un paradoxe. On pourrait aussi supposer qu'à l'heure actuelle, il y a des attentes de profits relativement élevés du côté des sociétés américaines et donc ça attire dans l'immédiat. Néanmoins, ce processus, il est quand même traversé par des contradictions. Quand on raisonne en termes de commerce extérieur, en termes de monnaie, eh bien, en réalité, on touche directement un point très sensible de la stabilité politique aux États-Unis aussi. Alors, pourquoi est-ce une question de stabilité politique aux États-Unis? Eh bien, vous allez avoir l'impression que je fais un petit détour, mais vous allez comprendre à la fin pourquoi ça nous ramène très directement dans l'actualité.
On vous suit.
Donc, un des faits majeurs de l'économie américaine des 40 dernières années, c'est l'explosion des inégalités sociales. Ça a été bien démontré par les travaux de Piketty, entre autres. Et alors, dans ces situations, on pourrait supposer qu'elle génère du mécontentement social. Et alors, pour gérer ce mécontentement virtuel, le nœud financiarisation mondiale, il est crucial. Alors, essayons de démêler succinctement ce nœud. Alors, quand on a des ménages dont, en quelque sorte, le pouvoir d'achat est plafonné, eh bien, une manière de compenser, c'est de leur permettre un accès accru au crédit. C'est la financiarisation dont je ne traiterai pas. Je m'intéresserai plus à la deuxième composante du nœud financiarisation-mondialisation, Donc la mondialisation signifie, entre autres, pour les ménages relativement appauvris aux États-Unis, un accès à des biens de consommation moins chers. Donc en quelque sorte, et c'est là qu'intervient entre autres la Chine, eh bien les pays à bas salaire qui exportent massivement exportent aussi leur pouvoir en quelque sorte déflationniste. Donc les prix à la consommation restent relativement faibles. Donc ça permet aux ménages aux États-Unis de consommer. Donc il y a une sorte de besoin de mondialisation. Mais ce besoin, il est contradictoire puisque, eh bien, d'une part, la mondialisation a entraîné de la délocalisation.
Et donc une forme de concurrence pour ce fameux tissu industriel-là, entre autres.
Dont
et donc les emplois.
Donald Trump, d'ailleurs, parce qu'il a fait quand même une bonne partie de sa campagne sur ça. Et puis l'autre aspect assez intéressant avec l'élection de Trump tout récemment, c'est qu'il a aussi gagné en raison de l'incapacité de Joe Biden à faire face à l'inflation. Donc on voit à quel point la sensibilité au prix, elle est importante du côté des ménages américains. Et donc, dans cette situation, un dollar fort, eh bien, ça permet à nouveau d'accéder à des biens de consommation étrangers peu chers. Mais ça pourrait avoir en même temps pour effet de creuser le déficit commercial des États-Unis, ce contre quoi Donald Trump souhaite lutter. Donc la situation, elle est assez délicate.
Il y a une autre chose contre laquelle personne ne semble vraiment vouloir lutter et qui pourrait aussi participer à une forme de défiance ou en tout cas de méfiance vis-à-vis de l'économie européenne, c'est son niveau d'endettement, Antoine Berthoud. À partir du moment où on estime que cette force du dollar est une façon de mesurer quand même aussi la santé économique des États-Unis, or il faut dire que ce niveau de la dette américaine, il est en train d'atteindre un plafond. Plafond, on le rappelle, que Joe Biden avait contribué à lever. Il est revenu depuis le 1er janvier 2025, il s'établit à 36 000 milliards de dollars. Alors Scott Bessent, qu'on évoquait dans l'introduction, a assuré que le pays ne ferait pas défaut. Il l'a dit, il s'en est assuré. Mais tout de même, il s'agit d'un déficit budgétaire auquel il faut ajouter ce fameux déficit commercial de 102,9 milliards de dollars qui se creuse chaque mois un peu plus. Antoine Berthoud, on pourrait se dire que ce ne sont pas des signaux très encourageants non plus. Là aussi, là encore, il y a une forme de paradoxe.
Alors, très clairement, la politique américaine aujourd'hui dans le programme donc de Donald Trump, c'est un sujet très important. L'endettement, l'endettement public, vous l'avez dit, donc est très important aux États-Unis et aussi important vis-à-vis du reste du monde. Donc là, je rejoins un petit peu ce qui a été dit juste avant par Benjamin. Donc le déficit des transactions courantes, donc qui mesure donc l'endettement, le déficit de l'économie américaine vis-à-vis du reste du monde chaque année donc est autour de 3,3%, et tous ces déficits se cumulent. Donc l'économie américaine devient aussi, comme d'autres économies, mais de plus en plus endettée vis-à-vis du reste du monde. Donc tout ça ne pose pas de problème tant qu'on reste dans des niveaux relativement soutenable de position, ce qu'on appelle les positions extérieures nettes des économies. Mais donc tout cela pose des questions assez politiques aux États-Unis sur la dépendance vis-à-vis d'autres économies, notamment vis-à-vis de la Chine, ça a été indiqué juste avant. Et donc ça c'est un point fort de la campagne de Donald Trump, mais qui était donc c'est un point de vue qui est aussi assez bipartisan aux États-Unis, à savoir que cette opposition à la Chine, ou en tout cas la vision que la Chine représente un concurrent géopolitique sur la scène mondiale des États-Unis, elle est largement partagée aux États-Unis. La manière de résoudre ce paradigme-là n'est pas exactement la même entre les deux candidats, les deux programmes politiques pour l'élection américaine. Donc il y a une vision du côté de Donald Trump que l'utilisation des tarifs douaniers va permettre de financer l'économie américaine. Et cette vision n'est pas complètement infondée. Donc il y a un peu cette idée qu'il existe aux États-Unis, pour une grande économie, l'existence d'un droit de douane optimal. Le fait qu'une économie est grande lui permet d'imposer des droits de douane, et ces droits de douane vont conduire à baisser le prix des concurrents. Donc voilà, de manière à collecter des taxes importantes. Là où le programme devient très discutable, c'est sur le financement que peut apporter ces recettes douanières sur des baisses d'impôts aux États-Unis. Et donc là, on arrive vraiment sur le cœur de la politique de Donald Trump.
Jean-François Ponceau, vous souhaitiez réagir et puis ensuite je passerai la parole à Benjamin Burbaumer.
Oui, je voulais réagir par rapport à l'inquiétude par rapport à la dette américaine, que ce soit la dette au niveau du budget ou à la dette extérieure. Je crois qu'il faut relativiser un peu cette inquiétude, même si effectivement il faut s'y intéresser, pour deux raisons. Tout d'abord, bon, ça fait longtemps qu'on s'inquiète du déficit extérieur américain, mais en réalité, ce déficit extérieur américain, c'est simplement le miroir, enfin l'illustration du fait que le dollar est une grande monnaie internationale et que tout le monde l'utilise. Et puis la deuxième raison, c'est une raison interne aux États-Unis. Faut pas oublier que si Donald Trump veut avoir un excédent commercial, c'est pas nécessairement parce que il raisonne en termes d'économie internationale. C'est parce que ça correspond à sa doctrine personnelle. Donald Trump, avec ses conseillers, considère qu'on est sorti de l'ère du libre-échange, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant dans le libre-échange, et qu'on est entré dans l'ère de la confrontation, de la guerre commerciale. Donc c'est un peu une logique qu'on pourrait qualifier de néo-mercantiliste, hein, qui consiste à vouloir accumuler des excédents en exportant le plus possible et en apportant le moins possible. Et pour cela, évidemment, il développe ce type de stratégie. Mais encore une fois, je ne crois pas que ça soit cette idée de préserver des équilibres macroéconomiques. Ça correspond plus à une doctrine politique, voire idéologique.
Benjamin Birbaumer, vous souscrivez à cette idée finalement d'un effet de discours politique, peut-être plus que d'affronter une réalité économique quelconque ?
Très clairement, parce que tout simplement, il y a une règle de base, c'est qu'un budget ne peut être financé par des taxes comportementales. Les droits de douane, ce serait une taxe comportementale. Donc elle permet d'encaisser des recettes.
Une taxe comportementale, puisque ce sera un signal envoyé par le prix, de fait, en faisant augmenter les biens importés.
Les droits de douane, dans la conception de Donald Trump, devraient avoir pour effet de diminuer le déficit commercial. Mais en même temps, Donald Trump nous dit « je vais supprimer l'impôt sur le revenu et on va financer le trou budgétaire par les droits de douane ». Mais si, enfin, les recettes des droits de douane arrivent seulement si le déficit commercial persiste. Donc il y a deux objectifs qui sont incompatibles. Et comme le disait Jean-François à l'instant, effectivement, il y a une autre question qui me semble qui se joue derrière la question commerciale, qui est celle de la suprématie technologique. Pour mesurer l'importance de cette question-là, il faut bien comprendre ce que sont les chaînes globales de valeur. Alors, il y a 40 ans, la production, elle était relativement simple. Au sein d'une même usine située dans un même pays, on produisait de A à Z et puis il y avait le produit final qui était vendu aux consommateurs. Entre-temps, ont été mis en place ce qu'on appelle les chaînes globales de valeur, où le processus de production est découpé en plusieurs étapes et ces différentes étapes sont dispersées à travers le monde et il y a une entreprise qui chapeaute le tout, qu'on appelle l'entreprise leader, qui coordonne les différentes étapes. Et ce qui est important, c'est que cette entreprise leader ne coordonne pas seulement, mais elle réussit aussi à s'approprier la plus grande part de la valeur ajoutée produite tout au long de la chaîne.
Elle concentre effectivement.
Exactement, elle concentre en quelque sorte les richesses créées. Et une des raisons principales pour lesquelles elle réussit à faire ça, c'est parce qu'elle détient les technologies clés dont ont besoin tous les acteurs tout au long de la chaîne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant des décennies, les sociétés américaines étaient vraiment les pionniers, les précurseurs technologiques. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, avec la montée en puissance de la Chine, avec son rattrapage technologique, eh bien, la position très confortable des sociétés américaines est en quelque sorte mise en cause. D'où la préoccupation, notamment pour les semi-conducteurs, pour l'intelligence artificielle. Donc, il y a un focus sur les technologies de pointe qui est présente dans le discours de Trump, mais on peut aussi le remarquer déjà dans le discours de ses prédécesseurs. Trump est beaucoup plus affirmatif, ça c'est vrai.
Ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, Benjamin Birbaumer, c'est qu'il s'agit là, certes d'une compétition mondiale, mais tout de même très sectorialisée, finalement, sur ce secteur des technologies, et notamment via cette idée-là d'un endroit, on va dire, économique où se concentrerait la valeur. Or, cette question-là, et notamment de la concurrence internationale, elle a fait partie, on le disait, du discours de Donald Trump, sauf que Donald Trump n'a pas fait que évoquer ces barrières douanières. Il est toujours très compliqué de savoir avec lui ce dont il va être question plus tard, vu le foisonnement, on va dire, du discours. Et en tout cas, c'est ce que nous dit l'économiste Barry Eichengreen lors d'un entretien donné aux médias Le Grand Continent, mis en ligne il y a 5 jours, notamment sur la question du dollar.
Tout ce qui implique Donald Trump est par nature incertain. So, you know, Trump in the campaign was talking the dollar down.
Pendant la campagne, il a dénigré le dollar, mais plus récemment, il s'est prononcé en faveur de son renforcement. Il est donc impossible de prédire sa position sur le dollar demain ou l'année prochaine. Cependant, cette incohérence renforce une tendance que nous avons observée. Elle encourage les autres nations à se couvrir et à explorer des alternatives à la dépendance au dollar. Bien que 99% de ce que nous avons vu jusqu'à présent ne soit que des paroles plutôt qu'une véritable dédollarisation, la conversation se poursuivra probablement et sera encore alimentée par d'autres déclarations de Trump.
Selon Richard Koo, chef économiste du Nomura Research Institute, cité dans le journal Les Échos, ces 40 dernières années, le dollar fort a entraîné un manque à gagner de 1 000 milliards de dollars par an pour les États-Unis. Jean-François Ponceau, est-ce au nom de cette perte-là que Donald Trump entend lutter contre un dollar fort? Et si oui, il faut peut-être nous expliquer le mécanisme par lequel les États-Unis perdent autant d'argent du fait de cette monnaie forte.
Très honnêtement, je trouve que on pourra trouver des travaux d'économistes qui montrent exactement l'inverse.
C'est intéressant, ça nous explique déjà qu'il y a une forme de contestation.
Oui, donc en fait, c'est un argument, qu'on peut discuter. En revanche, ce qui est certain dans ce qui a été dit précédemment, c'est que effectivement, Donald Trump est imprévisible. Néanmoins, je crois qu'il a parfaitement compris que de réaffirmer la suprématie du dollar comme grande monnaie internationale, comme un instrument de puissance, c'était essentiel dans son agenda de remettre les États-Unis au centre de l'économie mondiale dominante, quoi. Bon, ça c'est une chose qui est assez évidente. Ce dont il a pris conscience aussi, c'est sans doute le fait que la montée en puissance des émergents, des BRICS, c'est quelque chose qui vient éroder précisément non seulement le statut de puissance internationale des États-Unis. Donc là, il y a un argument géopolitique, mais ça vient aussi, selon lui, diminuer la prospérité et le niveau de vie des Américains. Donc évidemment, sa logique, pour préserver les intérêts de ses électeurs et puis pour réaffirmer le statut de puissance des États-Unis, eh bien, ça va consister à faire à la fois une guerre commerciale, on a parlé des droits de douane, mais également une guerre monétaire à travers le dollar.
Benjamin Birbaumer, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre là. Il y a eu notamment la notion de suprématie. Alors avant d'essayer de comprendre dans quelle mesure elle est contestée ou en train d'être détricotée, même si on verra que ça reste embryonnaire pour l'instant, il faut quand même comprendre comment s'est construite cette suprématie-là, comment on arrive à ces fameux 58%, je le rappelle, de réserves de change à travers le monde qui sont composées du dollar. Vous parlez dans votre ouvrage, d'ailleurs, d'un privilège exorbitant. C'est une formule qui est assez connue pour parler de cette suprématie du dollar, puisque ça reprend les mots de Valéry Giscard d'Estaing, je crois, en 1964. En quoi, de fait, Benjamin Birbaumer, cette suprématie du dollar à travers le monde est-elle, de fait, un privilège exorbitant?
Bien, on peut le voir de plusieurs manières. Tout d'abord, typiquement, Ben Bernanke a calculé en 2016, il me semble, que effectivement, grâce au dollar, les États-Unis obtiennent à peu près 20 milliards de dollars par an du reste du monde, du fait que, puisque le reste du monde cherche à placer des avoirs en dollars, eh bien, pousse à la baisse en quelque sorte les rémunérations pour les actifs américains. Donc il y a une demande de la part du reste du monde qui permet à l'économie américaine de s'endetter à moindre coût. En plus, il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est que puisqu'il y a une demande continue pour la monnaie américaine, eh bien les États-Unis peuvent se permettre d'avoir des déficits budgétaires courants chroniques très élevés, parce que tout simplement ils sont assurés que ces déficits seront toujours couverts par l'afflux de financement de la part du reste du monde.
Ça, c'est une sorte de filet de sécurité finalement.
Exactement. Donc les États-Unis n'ont pas besoin de s'inquiéter de la fuite. De l'euro, du dollar. Donc les États-Unis ne sont pas comme l'Argentine ou le Mexique. Donc ça donne quand même beaucoup de sécurité pour l'économie américaines. Et puis, il faut aussi ajouter à ça que, tout simplement, les coûts de transaction pour les sociétés américaines sont moindres. Elles facturent essentiellement en dollars dans le reste du monde et elles peuvent payer eh bien, leurs salariés, leurs actionnaires, leurs fournisseurs en dollars aussi. Il n'y a pas de risque de change. Donc, en réalité, quand on dirige une multinationale américaine, eh bien, il y a une série de coûts qui n'existent pas, mais auxquels d'autres grandes entreprises issues d'autres zones monétaires doivent faire face.
Vous allez même plus loin dans votre ouvrage et vous citez un exemple qui aide bien à comprendre aussi cette situation. Vous dites qu'il est parfois moins coûteux lorsque il y a des échanges entre des pays qui ont des monnaies moins fortes, on va dire, que le dollar. Il est moins coûteux de convertir la monnaie initiale en dollar, puis de refaire cette conversion dollar avec la monnaie, on va dire, d'arrivée, que de faire l'échange directement de gré à gré. Ce qui implique aussi que, du fait que ce soit moins coûteux et que ce soit, de fait, plus pratique, il y a plein d'échanges qui se font en dollars, alors qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité de le faire. C'est juste, c'est devenu presque un passage quasiment obligé, parce que très arrangeant, Benjamin Birnbaumer.
Tout à fait. Alors là, on sort du cadre des réserves de change et on s'intéresse aux opérations de change, les transactions de change. Et effectivement, si vous voulez, une entreprise chilienne qui fait du commerce avec une entreprise mexicaine, eh bien, toutes deux entreprises ont plutôt intérêt à échanger, par exemple, d'abord le peso chilien contre du dollar américain et puis d'échanger le dollar américain contre du peso mexicain. Donc, les transactions de change transitent très souvent, quand c'est des plus petites monnaies, par le dollar. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles le dollar est effectivement tellement utilisé à l'échelle mondiale. Donc, même dans des transactions qui n'impliquent pas des entreprises américaines, eh bien, le dollar est utilisé et ça fait partie effectivement de la force de cette monnaie.
Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a à la fois cette fonction de filet de sécurité lorsqu'on parle des réserves de change, cette fonction de moindre coût, finalement, de praticité lorsqu'on parle d'échange, on va dire en termes de commerce international. Jean-François Ponceau, pourquoi il y a eu ce tournant Bon, j'imagine qu'on peut faire remonter beaucoup de choses aux années 70, mais finalement, rien n'oblige à passer par là depuis la fin du système de Bretton Woods en 1944. Comment le dollar a réussi à s'imposer un peu comme ce qui a l'air d'être une évidence aujourd'hui ?
Bah, en fait, ce sont les leçons de l'histoire. Hein. Dans l'entre-deux-guerres, les États-Unis étaient en position, effectivement, d'affirmer le dollar comme une monnaie internationale. Il le faisait pas parce qu'à l'époque, il voulait pas assumer le statut de puissance hégémonique. En revanche, après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, là, ils ont joué ce rôle-là et les accords de Bretton Woods ont consacré, en quelque sorte, le rôle pivot du dollar dans un système qui a duré deux décennies à peine, hein, le système de Bretton Woods, qui a fini par exploser au début des années 1970. Et effectivement, faute d'avoir un système organisé, on est resté depuis 50 ans dans un régime monétaire international où le dollar est encore la monnaie pivot. Alors comment c'est possible ça ? Bah, c'est possible parce que le système international a besoin d'une monnaie de paiement pour réaliser des paiements internationaux dans les échanges, hein, comme ça a été dit précédemment, mais aussi au niveau financier, c'est-à-dire que la finance a besoin d'un instrument ou d'une unité de compte. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'unité de compte qui est privilégiée, c'est le dollar américain. Alors ça s'explique pour des raisons qui sont historiques, mais aussi structurelles. C'est-à-dire que les marchés financiers, enfin en tout cas les acteurs de la finance internationale, ont besoin de trouver des marchés financiers qui sont, on appelle ça comme ça, hein, qui sont larges et profonds. C'est-à-dire qui permettent d'avoir des placements très diversifiés et qui correspondent à leurs préférences en termes de risque, en termes de rendement. Bon, encore aujourd'hui, les États-Unis sont encore la place financière qui permet de trouver les opportunités qui correspondent le mieux aux préférences des acteurs de la finance internationale. Et puis, il y a un autre levier qui est un peu plus politique, qui est très important aussi, c'est que la finance internationale et aussi les banques centrales ont besoin, dans le système mondial, d'un instrument qui va permettre d'assurer la liquidité de leur portefeuille. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'instrument de liquidité ultime du système international, il est assumé par les bons du Trésor américain. Alors, lorsqu'on gère un portefeuille pour une banque centrale ou pour une banque ou un fonds d'investissement, on a besoin de se reporter de temps en temps sur un actif très liquide, c'est-à-dire qu'on pourra revendre facilement avec un niveau de risque relativement faible. Et aujourd'hui, ce sont les bons du Trésor américain. Et pour l'instant, on n'a pas d'alternative au bon du trésor américain comme instrument de liquidité ultime du système international.
D'où
en Europe, par exemple, si on imagine que les bons du trésor allemands ou français peuvent jouer ce rôle, aujourd'hui, quand on voit la perte de crédibilité de la politique budgétaire française, par exemple, bon, bah, on voit bien que ça serait compliqué. Donc, faute de mieux, depuis 50 ans, on fonctionne avec le dollar. Alors, je dis faute de mieux, mais en même temps, il faut savoir que plus le dollar est contesté au niveau international, plus les États-Unis vont avoir tendance, comment dire, à se raidir pour maintenir la suprématie. Pendant très longtemps, la doctrine des États-Unis, c'était de dire, bon, nous, on vous laisse faire, hein, c'est le fameux adage des années 1970, quand un secrétaire de Nixon avait dit « Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Donc c'est à vous de vous ajuster, c'est à vous de gérer s'il y a des effets collatéraux. » Bon, on voit bien aujourd'hui, avec la montée en puissance des BRICS, la contestation du dollar, on voit bien que les États-Unis sont en train de se raidir et d'être beaucoup plus actifs dans le maintien de l'hégémonie du dollar au niveau international.
On va revenir sur la façon dont s'organise cette contestation et quel avenir, en tout cas quel horizon cette contestation propose. Avant cela, tout de même, Antoine Berthou, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mise en balance de deux choses ? On le comprend, il y a cette idée de s'intégrer à des circuits financiers internationaux grâce à cette valeur refuge que serait le dollar, mais on pourrait se dire aussi que pour les banques centrales des pays concernés, qui sont des pays souverains, il faut le rappeler, c'est pas aussi une forme de perte justement de souveraineté, cette idée qu'on ne peut plus jouer sur sa propre politique monétaire pour faire face aux défis économiques qui sont propres à un pays. Est-ce qu'il y a eu les deux finalement ont été mis l'un face à l'autre et puis c'est finalement l'intégration financière qui l'a emporté?
L'intégration financière, enfin ça a été dit, donc elle a beaucoup d'avantages, elle permet de faciliter les échanges entre l'ensemble des économies. On a parlé aussi du rôle du dollar comme monnaie facilitatrice de ces échanges en termes de manufacturation, y compris pour des pays, des économies avancées, hein, pour la France par exemple. Hein, les exportations hors Union européenne sont à 40% facturées en dollars. Donc cette monnaie, elle facilite énormément les transactions sur les échanges de biens, de services et aussi les transactions financières. Elle impose aussi un certain nombre de contraintes dans une économie ouverte, évidemment. Et donc, une des spécificités du dollar, et pour les économies avancées comme les émergentes, et surtout les émergentes, la place du dollar va modifier la manière dont les taux de change vont permettre d'ajuster un petit peu les déséquilibres extérieurs. On peut prendre par exemple donc l'exemple des économies émergentes qui s'endettent en dollars. On s'attend à ce que, en cas de crise de la balance des paiements, de crise financière, l'affaiblissement de la monnaie vienne relancer un petit peu la compétitivité, rééquilibrer le solde extérieur. Mais lorsque vous vous endettez essentiellement dans le dollar, cela pose aussi un risque en termes de multiplication de la crise financière, enfin de la transformation d'une crise des balances des paiements en crise financière.
France Culture.
C'est d'accord, vous êtes les plus forts. Alors, annoncez le tarif. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez ? Des billes ? 300-400 billes ? Des belles billes en agate comme ça ? Des chewing-gum ? Un kilo de caramel ? Écoutez, je vous donne mon beau sifflet en or.
Entendez-vous l'écho ?
Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Des dollars.
Aliette Ovin.
Jean-François Ponceau, vous l'avez dit, et c'est ce qu'on comprend aussi à travers cette discussion, c'est que la dollarisation des économies, alors qu'elle soit plus ou moins progressive, est aussi un projet politique. On peut à cet égard citer l'exemple de Javier Milei, qui est arrivé au pouvoir en décembre 2023. Il promettait de dollariser son économie en remplaçant totalement le peso. Cela, du reste, a séduit les électeurs. Ça reste aussi une promesse électorale en tant que telle.
Oui, alors là, on aborde la question de la dollarisation interne de certains pays, dont le projet en Argentine. Alors, il faut bien faire la distinction entre deux niveaux de dollarisation. Il y a la dollarisation, et aujourd'hui, on parle de dédollarisation, du système international, c'est-à-dire dans les relations entre pays au niveau global. Lorsqu'on parle de l'Argentine ou d'autres pays qui sont complètement dollarisés, hein, comme l'Équateur ou le Panama ou le Salvador, on parle là plutôt de dollarisation interne, dollarisation domestique. Et ici, les pays qui font le choix d'utiliser le dollar comme monnaie officielle au lieu d'avoir une monnaie nationale, bon, c'est des logiques un peu différentes, hein. C'est-à-dire que faute d'avoir une monnaie qui inspire confiance, qui soit crédible aux yeux des marchés financiers, eh bien, ils font le choix de s'ancrer complètement à un instrument externe Et l'instrument externe qui, pour eux, est l'instrument de référence, c'est le dollar américain. Alors, dans le cas de l'Argentine, Javier Milei, c'est vrai qu'il a été élu sur un programme qui consistait à dollariser complètement l'économie. Son idée, c'était de vouloir, comme il le disait, je reprends son expression, vouloir de se débarrasser du peso, la monnaie argentine, qu'il appelait la monnaie de la caste, c'est-à-dire la monnaie de ceux qui, selon lui, étaient responsables des difficultés de l'Argentine. Donc, pour se débarrasser de cet instrument du passé, on va se débarrasser d'un instrument qui est a priori un instrument de souveraineté, la monnaie, et on va le remplacer par le dollar américain.
Alors justement, ce dollar américain, alors avec toujours cette nette différenciation que vous venez de faire entre dollarisation interne ou externe, et dollarisation interne est peut-être pas un cas à part, mais en tout cas concerne un beaucoup moins grand nombre de pays. Je crois qu'ils sont 7 à avoir cette dollarisation intégrale, comme on dit, c'est-à-dire aussi au sein même de leurs frontières. Mais en tout cas, ce dollar américain est au cœur du discours de Scott Bessent, on l'a déjà mentionné, le futur secrétaire au Trésor de l'administration Trump, et qui s'exprimait justement sur ce sujet de la dollarisation dans une interview donnée en juin 2024.
Je ne pense pas qu'il faille avoir une intervention de grande échelle sur les devises. Ce que nous devons avoir, c'est un retour aux années 80 ou même 90, quand il y avait une grande coordination avec les monnaies, avec la fiscalité, le monétaire, avec les Chinois, il y avait beaucoup de systèmes mercantilistes. L'excès de réserve de change qu'ils ont accumulé, juste l'excès de réserve de change, vous montre que les accords d'échange ne sont pas bons, que les niveaux de monnaie sont faussés, qu'il y a des excès de subventions. Donc il y a quelque chose de mal dans ces excès de réserve de change, et quelque chose doit être fait. On pourrait leur dire, vous accumulez ces réserves de change et nous ne pensons pas que c'est une bonne idée.
Donc vous dites que la force du dollar est essentiellement le résultat de manœuvres prises par des pays ennemis et que nous devons être plus actifs.
Je pense que nous devrions regarder la situation comme on le faisait avant.
Voilà, des niveaux de monnaie faussés du fait d'excès de subventions, une manipulation des cours via les excès de réserve de change. Antoine Berthoud, il va falloir nous aider à clarifier ces propos. Dans quelle mesure le dollar fort actuel est-il lié à une stratégie de la Banque centrale chinoise? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre dans ce discours qu'on vient d'entendre de Scott Bessent?
Donc Scott Bessent, il dit deux choses. Donc il y a des du côté chinois ou du côté des émergents, il y aurait des réserves excessives en dollars, mais qui reflètent essentiellement le rôle international du dollar dans le système monétaire international. Donc là, on est dans ce qu'on a planté à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais donc une manipulation des excès de surplus, des subventions. Donc là, on arrive plutôt sur la question actuelle un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui le second choc chinois. À savoir, donc, le premier choc chinois, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a beaucoup concurrencé les industries dans les économies avancées, et aussi conduit à une demande de protectionnisme aux États-Unis comme en Europe, qu'on retrouve aujourd'hui dans les élections, dans la montée des populismes. Un second choc chinois qui sera lié donc à la faiblesse de l'économie chinoise, et puis au versement de subventions au secteur exportateur, qui ne réussirait pas, au secteur industriel, qui ne réussirait pas à vendre leurs produits sur le marché domestique, et qui, du coup exporterait leur surplus. Donc là, c'est quelque chose qui est pas trop contesté. Il y a un petit peu de dissension entre le Trésor américain et le FMI. Le FMI est un petit peu plus dovish vis-à-vis de la Chine. Le Trésor américain, y compris sous Biden, beaucoup plus combatif, en tout cas, vis-à-vis de cette position, de ce second choc chinois. Le deuxième point qui est soulevé par Scott Bessent, on va peut-être y revenir, c'est l'idée que dans les années 80, on était effectivement plus mercantiliste et on a conduit au niveau international des accords, notamment sur l'échange. Donc là, je pense qu'il est donc dans son édition hier, il a fait référence encore une fois. Donc aussi Steven Miran, qui va devenir le chair du Council of Economic Advisors, c'est ça dans son rapport qu'il a publié en novembre, l'idée qu'il peut y avoir des accords entre les grandes banques centrales pour influencer la valeur du dollar, comme on l'a vu au moment des accords du Plaza en 85.
Alors Jean-François Poisseau, ils sont importants, enfin il est important cet accord du Plaza de 1985, parce que ça nous aide aussi à faire un petit peu de pédagogie sur ce qui détermine aussi le taux de ces monnaies, en l'occurrence du dollar. À l'époque, États-Unis, Japon, Allemagne de l'Ouest, Royaume-Uni et France se mettent d'accord pour déprécier le cours du dollar américain. Pourquoi un tel accord? Quel était l'intérêt finalement des pays autres que les États-Unis de procéder à cet accord-là?
Oui, c'est la bonne question, parce que si aujourd'hui se pose à nouveau la question d'accords multilatéraux pour faire baisser le dollar, comme en 1985 avec les accords du Plaza, il me semble qu'on n'est pas tout à fait dans la même logique. À l'époque, la nécessité de faire baisser le cours du dollar, c'est parce que le dollar avait fortement monté suite à la politique monétaire, aux événements des débuts des années 80. Et tout le monde, en gros, était d'accord, hein, c'était les pays du G5, étaient d'accord pour faire baisser le dollar. Là, l'initiative lancée par Scott Bessent et Donald Trump, elle est différente. Elle consiste à dire, nous, États-Unis, on souhaite, même on exige, de nouveaux accords internationaux avec l'Europe et avec la Chine pour faire baisser le cours du dollar. Mais il n'est pas du tout sûr que l'Union européenne ou la Chine soient d'accord avec ces stratégies-là. Parce que si aujourd'hui les États-Unis défendent ce point de vue, c'est pour défendre les intérêts des États-Unis et non pas dans une logique de gouvernance mondiale pour stabiliser les taux de change. Donc il me semble que ce parallèle entre les accords du Plaza et ceux qui potentiellement peuvent avoir lieu aujourd'hui, c'est quelque chose un peu simplificateur, parce que là encore, il s'agit de simplement une initiative américaine.
Oui, ou en tout cas un peu optimiste de la part de Trump et consorts, on va dire, dans le sens où les temps ont changé. Ce qui est intéressant aussi, Benjamin Birbaumer, c'est un peu ce qu'on disait à l'instant, c'est que finalement, on voit que les États-Unis se retrouvent, selon les circonstances, un peu au piège de leur propre hégémonie, de tout ce qu'ils ont contribué à construire, de la façon dont le système monétaire international s'est mis aussi en place après Bretton Woods. Finalement, on se rend compte que certes, c'est un avantage évident pour les États-Unis, mais il y a aussi une forme de vulnérabilité. Il y a aussi, quand les choses vont trop loin, pour le dire très simplement, ça se referme un peu sur les États-Unis comme un piège, d'où cette volonté de remettre les choses sur la table en espérant que tout le monde signe ce qui pourrait être un accord du Plaza 2, même si on voit bien que ce ne sont pas du tout les mêmes circonstances.
La Chine est effectivement un peu au cœur des réflexions aux États-Unis et c'est là qu'on trouve un des aspects de ce que j'appelle le paradoxe de la Chine dans mon livre, c'est que tout d'abord, la Chine a été accueillie bras ouverts. Les États-Unis étaient très favorables à l'intégration, à l'insertion subordonnée de la Chine dans la mondialisation en tant que fournisseur de produits à bon marché. Entre-temps, eh bien, la Chine, elle a traversé une sorte de rattrapage technologique très impressionnant, de sorte à ce que, finalement, aujourd'hui, la Chine n'est pas seulement le fournisseur de bien bon marché peu complexe, mais peut maintenant aller disputer le terrain des firmes de la tech les plus avancées aux États-Unis. Oui. Et donc, en réalité, la Chine, elle a un déséquilibre macroéconomique entre l'investissement et la consommation qui est criant depuis 30 ans. Il y a 30 ans, ça n'a pas tellement dérangé aux États-Unis parce qu'après tout, c'était une des manières précisément d'accéder à des biens de consommation pas chers. Aujourd'hui, que les firmes chinoises concurrencent plus activement les sociétés les plus avancées aux États-Unis, eh bien là, la question elle se pose de manière beaucoup plus saillante. Mais ce qu'on aperçoit aussi là, c'est que finalement, derrière l'argument en faveur du libre-échange, c'est pas tellement une question d'efficience économique qui se pose, mais très fortement aussi une question d'intérêt politique. Et quand la Chine, elle concurrence dans le segment que les États-Unis pensaient réserver à leurs entreprises, eh bien là, il y a des politiques beaucoup plus agressives, en quelque sorte, ou en tout cas beaucoup plus affirmatives en termes de droits de douane ou de sanctions.
Ce qu'on comprend, c'est qu'encore une fois, il s'agit essentiellement de discours et de vision aussi de ce que devraient être les échanges économiques et de ce qu'ils peuvent apporter à la population, notamment américaine. Antoine Berthoud, c'est intéressant de se dire que, bon, aujourd'hui, on verrait difficilement tous les acteurs de l'accord du Plaza se mettre autour de la table et se mettre d'accord pour déprécier un peu le dollar. Que reste-t-il aux États-Unis pour justement tenter de faire baisser cette monnaie? Alors pas sa place dans le monde, on l'a compris, il faut toujours bien avoir en tête ces deux différences entre réserve de change et ce qui est exprimé finalement dans les taux de change, mais quelle arme reste-t-il finalement aux États-Unis? Et je vous pose la question notamment parce que Trump a largement insisté sur le fait qu'il comptait sur la coopération de la Fed, de la Banque centrale américaine, aussi dans cette perspective-là.
Alors aujourd'hui, la Fed est indépendante. Il y a un petit peu de flottement justement sur cette volonté d'amoindrir cette indépendance.
Scott Bessent t'a dit qu'elle resterait indépendante.
Voilà, exactement. Donc hier, il a un petit peu garanti, ou en tout cas indiqué que... Donc, il n'y a pas d'indication aujourd'hui que ça va être complètement renversé. Aujourd'hui, donc, il y a une sorte de paradoxe. Donc les États-Unis veulent un dollar qui est largement utilisé sur l'économie mondiale, dans l'économie mondiale, pour assurer leur influence géopolitique, l'extraterritorialité du droit américain également. Et ils veulent un dollar qui est faible. Et donc tout ça vient un petit peu en contradiction. Alors, et je m'inscris totalement en accord avec ce que disait juste avant Jean-François Ponceau. Aujourd'hui, on est dans un système complètement différent. Un accord sur l'échange n'aurait pas le même impact. Il faudrait mettre autour de la table la Chine, en plus des pays du G5. Le marché d'échange est beaucoup plus profond qu'il n'était à l'époque. Et même à l'époque, l'impact de cet accord est discuté dans la mesure où le dollar s'était déjà déprécié d'à peu près 10% avant l'accord du Plaza. Donc il y a un petit peu d'effet d'anticipation. Donc là, on est vraiment, on peut douter de l'efficacité de cet accord. Pour mettre les pays autour de la table, néanmoins, les États-Unis comptent sur l'idée qu'ils peuvent utiliser des instruments de coercition économique en menaçant de mettre davantage de droits de douane sur leurs partenaires, y compris sur les partenaires les plus proches. On l'a vu avec le Canada et le Mexique récemment. L'idée, c'est de lutter contre le trafic de drogue et la migration illégale au travers des frontières. Eh bien, on va menacer de droits de douane pour obtenir un gain politique, un gain géopolitique sur des politiques qui n'ont rien à voir avec le taux de change. Maintenant, ces droits de douane ou l'application de ces droits de douane en macroéconomie doivent, on s'attend à ce que ça renforce le dollar. Donc on en revient à une nouvelle contradiction. Pourquoi est-ce que les droits de douane renforcent le dollar en macroéconomie? Tout simplement parce que elles créent au moins à court moyen terme de l'inflation. L'offre ne s'ajuste pas immédiatement. Et dès lors, la Banque centrale réagit et on augmente le rendement des actifs détenus aux États-Unis. Donc, on renforce le dollar. Donc, tout ça naît encore une fois de la place spécifique des États-Unis dans cette scène économique mondiale et via les institutions qu'on a plantées après-guerre.
Et on le comprend, donc les États-Unis sont pris en tenaille entre les avantages d'une économie mondiale dollarisée et la menace en termes de compétitivité que fait peser le risque d'un dollar trop fort. Et ce, d'autant plus qu'elle entend engager une bataille commerciale sans précédent. Cela faisait partie des promesses de campagne de Donald Trump. Alors, quels sont les véritables enjeux de cette bataille commerciale avec la Chine notamment? Quelle place y occupe le dollar? Et cette reconfiguration des règles du jeu commercial va-t-elle inciter les économies nationales à se désengager vis-à-vis de la monnaie américaine? On en parle dans quelques instants.
De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loques, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la breloque, le dollar. Mais par milliers de la vieille Europe, quittant sa ferme, son échoppe, où les bas de quartiers interlopent, on part, ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le dieu dans son église, le dieu dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, ce soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Il éclaire le monde de son feu criard, et les hommes à la ronde l'adorent sans retard.
Ne perd pas le nord, vous pensez, juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer, ça part.
On joue, on perd, on gagne, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, on devient riche, dollar.
On met les vieux pneus en conserve, et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec ça,
dollar. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on débite dans chaque église, aux enchères comme une marchandise à coups de dollars.
Mais sur la ville ardente, dans le ciel blafard, cette figure démente, c'est le dieu dollar. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort. Il gagne tous les hommes parce qu'il est en or.
Auto, phono, radio, machine.
Ce soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Gilles et Julien chantent le dollar sur France Culture. Entendez-vous, l'écho aussi s'intéresse à cette arme monétaire, mais alors pas en chantant, puisque nous sommes toujours en compagnie des économistes Benjamin Burbaumer, Antoine Berthou et Jean-François Ponceau. Alors, on a commencé à aborder les conséquences que pourrait avoir, avec cet effet en chaîne, on va dire, de ces barrières douanières qui que Donald Trump entend imposer. En décembre 2024, l'actuel secrétaire du Trésor des États-Unis, Janet Yellen, s'exprimait justement sur les effets de la politique commerciale américaine menée face à la Chine.
L'imposition de droits de douane généralisés comme ceux qui sont actuellement discutés, presque tous les économistes s'accordent pour dire que cela va faire augmenter significativement les prix pour les consommateurs américains. Et créer une pression sur les coûts pour les entreprises qui ont besoin d'importations pour produire leurs biens. Ceci étant dit, notre administration croit aussi que les barrières douanières peuvent être appropriées. Et nous en avons utilisé dans les cas de distorsion manifeste de la concurrence. Je me suis régulièrement plainte à nos alliés de la façon dont la Chine développait des surcapacités pour inonder les marchés. Et pouvait miner les secteurs dans lesquels les États-Unis veulent avoir un rôle important dans le futur. Et donc, pendant l'administration Biden, nous avons imposé des droits de douane sur les biens issus de l'énergie propre et des semi-conducteurs venant de Chine. Cela touche seulement 18 milliards du commerce, mais ces secteurs sont indispensables à notre futur.
Benjamin Birbaumer, ce qu'on comprend là et ce qu'on a commencé à évoquer, c'est que imposer des barrières douanières ne va pas sans risque, et notamment pour l'économie nationale américaine. Pourtant, on assiste ces derniers jours, avant même l'investiture de Donald Trump, qui a, je le rappelle, qui aura lieu le 20 janvier, donc lundi prochain. Avant même cette investiture, on voit qu'il y a déjà une forme de course aussi aux annonces, que ce soit du côté chinois ou du côté américain. Du côté américain, 5 groupes chinois ont été ajoutés à la liste des entreprises considérées comme une menace pour la sécurité américaine. Pour l'instant, il n'y a pas trop l'idée, ou en tout cas de façon pas trop appuyée, d'interdire finalement l'arrivée de certains produits sur le territoire américain. On en revient là, finalement, à cette idée que à partir du moment où il n'y a pas de produits américains pour concurrencer les produits chinois, ce serait très risqué que d'en priver la population américaine, Benjamin Birbaumer.
Là, nous faisons face à une difficulté effectivement très importante, c'est que la politique commerciale, l'augmentation des droits de douane, peut effectivement avoir pour effet de renchérir le prix des biens importés. Mais cela ne signifie pas automatiquement que les consommateurs, en l'occurrence américains, cesseront d'acheter des produits chinois dès lors que ces produits sont uniquement produits fournis par des producteurs chinois. Donc, de ce point de vue-là, on voit clairement une limite d'une politique qui mise uniquement sur les droits de douane. Alors, ce qu'a fait la présidence Biden, c'est de miser plus fortement sur les politiques industrielles, de sorte à développer des secteurs aux États-Unis qui pourraient justement fournir des biens qui auparavant venaient essentiellement de la Chine. Mais encore faut-il, donc le premier manque de Trump, en quelque sorte, c'est la politique industrielle. Et puis le deuxième manque, qui a manqué aussi chez Joe Biden, c'est la politique des salaires. Les consommateurs ont aussi besoin de pouvoir d'achat pour acheter ces produits. Donc, dans les deux cas, dans les deux présidents, la politique salariale d'augmentation des salaires a clairement fait défaut. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, il va être difficile de faire du made in America s'il n'y a juste pas de production équivalente aux États-Unis.
Et on voit que ce risque est bien identifié. L'autre risque aussi de la politique commerciale de Trump qui a été identifié, on en a parlé avec Antoine Berthoux, c'est celui de renforcer l'inflation, en tout cas de provoquer une inflation plus grande encore. Et un risque aussi que la Fed augmente ses taux et donc que le dollar devienne encore plus fort. Or, un dollar fort, Donald Trump n'en veut pas, on l'a bien compris. Mais il ne s'agit pas pour autant de faire en sorte que le dollar disparaisse de la surface du globe. Loin de là, Donald Trump entend faire en sorte que sa monnaie reste dans les réserves de change des pays concernés, ce qui, on l'a compris, lui assure une sorte de suprématie. Jean-François Ponceau, dans quelle mesure certains pays pourraient chercher, notamment face à la force du dollar, à s'émanciper de ce système-là?
Certains ont déjà cherché à le faire. Il y a notamment l'offensive très forte des BRICS depuis 2 ans suite aux sanctions financières américaines. Le discours de Lula, le président brésilien 2023, qui explique on comprend pas pourquoi on devrait continuer à utiliser le dollar pour faire des échanges. Donc en fait, cette contestation du dollar de la part des pays émergents, elle est justifiée. C'est-à-dire que d'un point de vue géopolitique, on peut discuter, c'est des questions géopolitiques, mais d'un point de vue économique, il est clair qu'aujourd'hui, les pays périphériques sont perdants dans l'utilisation du dollar. Ça génère des contraintes macroéconomiques, financières très fortes pour eux. Donc l'émancipation du dollar est tout à fait logique. Après, dans les faits, il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de divergences entre ces pays-là, donc effectivement, ça débouche sur pas grand-chose. Et encore une fois, on passe pas d'un système hégémonique à un autre, simplement en quelques mois ou en quelques années. L'histoire monétaire nous enseigne que, comment dire, la suprématie d'une monnaie internationale se perd en plusieurs décennies. Si on prend même à l'époque de l'Empire romain, la monnaie, le solidus, a continué à circuler plus d'un siècle après la fin de l'Empire romain.
Donc une forme d'inertie qui est assez grande.
Oui, oui. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si on parle de déclin du dollar américain, c'est quelque chose qui prendra du temps si on est vraiment dans cette dynamique-là. Il me semble que c'est malgré la difficulté des pays émergents, aujourd'hui, il y a une contestation du dollar, mais elle débouche finalement sur pas grand-chose. Alors, ironie du sort, celui qui a vraiment lancé la contestation du dollar au sommet des BRICS en 23, en l'occurrence Lula, paradoxalement, c'est lui qui avait plombé un projet de contestation du dollar très fort en Amérique du Sud à la fin des années 2000, au début des années 2010. À l'époque, les pays d'Amérique latine avaient le projet de créer une monnaie régionale qu'ils voulaient appeler le sucre. Ils voulaient créer également une banque régionale pour financer le développement, pour s'émanciper du dollar et des institutions financières de Washington. Bon, et celui qui a plombé le projet à l'époque, c'est Lula. Et là, on le voit quelques années plus tard vouloir réactiver un projet de ce type-là à une échelle plus globale. Donc, c'est l'ironie de l'histoire.
Et cela dit, vous avez parlé du sommet des BRICS. Il y en a eu un nouveau, évidemment, depuis 2023. Et c'est un sommet qui s'est tenu du 24 au 27 octobre en Russie. Et évidemment, cette question, elle est revenue sur le devant de la scène. Les BRICS ont notamment plaidé pour un développement des échanges en monnaie locale par les pays membres. Antoine Berthoud, ça vous semble être une perspective réaliste?
Alors... Donc il y a le dans la zone euro, nous on fait l'essentiel de nos transactions en euros, donc il y a cet avantage d'avoir une monnaie qui est une monnaie de transaction. On peut imaginer ce genre de projet dans d'autres régions, donc au sein des BRICS, en Amérique latine, dans d'autres monnaies, etc. Mais effectivement dans le cadre des sanctions internationales. On voit ça très clairement. On voit apparaître plusieurs reconfigurations du commerce mondial, du commerce international. Avec l'accroissement des droits de douane sur la Chine, notamment, on a vu apparaître avec le développement des tensions géopolitiques, on a vu apparaître des pays connecteurs. Donc, la Chine exporte vers les États-Unis via le Vietnam et via le Mexique. Le reste du monde commerce avec la Russie via la Turquie, via un certain nombre de pays des Balkans et d'Asie centrale. Et donc, pour contourner ces sanctions, donc il y a cette option. Et aussi, il faut s'abstenir d'échanger en dollars. Tout simplement parce que le dollar, il offre aussi aux États-Unis un pouvoir de coercition via l'extraterritorialité du droit américain. Si vous faites une transaction en dollars, elle est un jour compensée, elle sera compensée d'une manière ou d'une autre aux États-Unis. Et ça offre la possibilité pour le département de la justice américain de poursuivre des entités, des personnes, des entreprises, des banques, comme on l'a vu en France il y a quelques années, pour avoir transgressé ces règles et ces contraintes. Et donc, dans le cadre des sanctions sur la Russie, on a vu que dans le commerce de la France, notamment, qui subsiste après 2014, avec la Russie, dans le commerce, dans les échanges de la Russie avec le reste du monde, eh bien, les échanges se sont faits après l'imposition des sanctions moins en dollars et plus en monnaie locale.
Et en tout cas, on comprend que la Chine, alors la Russie via les sanctions et la Chine, n'a pas dit son dernier mot. Ses exportations, d'ailleurs, ont bondi de 7% par rapport à l'année dernière, ce qui est considérable. Une affaire à suivre, donc, et c'est ce qu'on fera ici dans Entendez-vous l'écho. Merci beaucoup à tous les trois, Jean-François Ponceau, Benjamin Burbaumer et Antoine Berthoud, d'avoir participé à cette émission.